Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Cube Radio. Cube Radio. Les rencontres de l'air.
Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
On va décortiquer ce qui s'est dit un peu lors de cette annonce au coup de 13 heures. François Legault, Christian Dubé, Sonia Lebel qui annoncent leur plan pour pallier la pénurie de personnel en santé. On va décortiquer tout ça avec Elsie, Marc-André, Christian Dubé qui répond toujours aux questions des journalistes. Salut à vous deux.
Allô, allô.
Bon, est-ce que c'est pige dans l'ac pour qui veut commencer?
Vas-y, Elsie.
Vas-y, Elsie. Les dames d'abord.
OK, ouais, d'accord. OK, ben je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Là. C'est $1 milliard là, qu'on injecte, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Bon, François Legault nous a expliqué grosso modo que bon, ils ont signé les conventions collectives. Quand ils sont arrivés il y a 4 ans, c'était leur première priorité. Donc là, ils ont fait des nouvelles conventions collectives où ils ont adapté certains corps de métier. Bon, les enseignants, les infirmières, les préposés ont pu avoir là, des augmentations qui sont particulières. Et donc, à partir de là, ils se constatent que c'est pas suffisant. Donc, ils vont obtenir des primes, donc 15 000 $ pour des infirmières qui vont, ben, dans le fond, parce qu'ils veulent récompenser les infirmières qui sont restées dans le réseau. Donc, moi, je pense que c'est comme une bonne nouvelle, c'est une bonne approche. Puis, bon, le temps que les conventions collectives soient effectives et puis que, bon, finalement, les temps supplémentaires, etc., soient abolis.
Vas-y, Marc-André. Est-ce que cette étoile dans le cahier, parce que moi, je le voyais comme ça, là, si t'es resté, je te mets une petite étoile. Si tu viens à temps plein, je te mets une petite étoile. Si t'es revenu, tu perds 3 000, c'est une petite punition. Tu sais, 15 000 $, c'est-tu assez? 12 000 $ là, pour revenir du privé au public. Est-ce que c'est suffisant?
Ben, c'est ça la question et on va le savoir dans les prochaines semaines, hein. C'est ça. On va le savoir dans les prochaines semaines, c'est parce que c'est 15 000, puis après ça, t'enlèves. C'est les cotisations, les taxes, les impôts, tout ça, tu sais, qu'est-ce qui en reste vraiment? Est-ce que c'est ça qui va réinciter les gens? C'est sûr, il fallait qu'ils fassent quelque chose. Ce qu'on se rend compte que oui, c'est le fun, puis oui, tu sais, M. Legault le dit, Mme Lebel a signé des nouvelles conventions, mais ça prend du temps. Ça aussi, il y a peut-être un problème, là. C'est une fois qu'on a signé des conventions, pourquoi ça prend autant de temps, tu sais, d'être dans la paperasse puisque ça redescende? Peut-être là-dessus, on aurait du travail à faire aussi, qu'une fois qu'on a des, surtout dans la situation qu'on connaît, une fois qu'on a des conventions, là, il faut les appliquer plus rapidement. Là, on essaie de faire une passerelle. C'est pas une mauvaise idée. Tu sais, ça va coûter... Bon, OK, on dirait qu'on a perdu un peu le compte. Là, c'est ancien avec la COVID, surtout. Tu sais, là, c'est 1 milliard, donc ça...
un milliard de plus ou moins.
On fait faillite ou on fait pas faillite
à la fin de la journée. Là.
Exactement. Sauf que moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est quand M. Dubé se fait poser des questions par rapport au prix de service. Puis, disons, c'est pas des prix de service, c'est de la réorganisation. Là, je trouve qu'un peu, il joue sur les mots. Là, puis oui, il va avoir un... Il y a des prix de service. Même, tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand ça... Oui. Je veux dire, à un moment donné, on essaye de jouer un peu avec les mots pour rendre ça un peu moins catastrophique.
Gaétan Barrette a tweeté sur cette fameuse réorganisation. Il a tweeté la chose suivante. Réorganiser, c'est donner moins de services en fonction du personnel qu'on a, comme fermer un quart de nuit dans une usine. Quand même.
Non, mais Gaétan Barrette, ouais, c'est ça. Lui, je trouve qu'il devrait peut-être là, la jouer plus low profile. Sérieusement, il n'y a pas vraiment de leçons à donner à personne. Mais tu sais, l'objectif ultime, tu sais, de toutes les mesures, c'est de ramener des infirmières à temps plein. Donc tout va vers ça, puis d'arrêter de recours aux agences privées, parce que ça détruit le système. À la base, des agences privées, ça devait être genre occasionnel pour aller chercher des infirmières. Puis là, ce qui se passe, c'est l'autre enjeu que le premier ministre a parlé pendant la période de questions, c'est-à-dire il y a des infirmières qui sont à temps partiel, puis finalement ils font du temps double, donc ils obtiennent un salaire plus important que si elles étaient à temps plein. Donc, il y a vraiment une problématique. Puis ça, c'est la même question par rapport au corps de travail de 12 heures dans le secteur anglophone. On n'a pas eu le détail de ça. Mais effectivement, si ton corps de travail est de 12 heures, c'est que tu n'as pas accès aux heures supplémentaires. Donc, les infirmières...
Ah, est-ce qu'on a perdu Elsie? Mon Dieu, c'était tellement intéressant ce qu'elle disait. On est suspendu. Marc-André, non, mais c'est vrai ce que soulève Elsie. Il y a quand même plusieurs points aveugles dans cette affaire-là. Puis, tu sais, à un moment donné aussi, il va falloir se poser la question, est-ce que cet argent-là va être nécessaire? Parce que, tu sais, on est toujours dans l'argent, mais le temps supplémentaire, je veux dire, on pourra pas les remplacer par des robots, ce monde-là, là, parce qu'il en manque aussi. Là. Même mm-hmm. si tout le monde à gauche se met à temps plein, on n'aurait quand même pas assez.
Oui, c'est ça, mais c'est là que ça va plus loin que juste faire une annonce et dire, OK, on donne 12 000, 15 000 ou 18 000 ouais. selon les régions pour revenir. C'est que il y a aussi toute une fois là, que une fois que tu as pris la personne qui est retraitée puis elle revient, ou la personne qui avait quitté le réseau public pour le privé puis elle revient.
Mais Marc-André, ta personne.
Une fois qu'elle a reçu le 15 000, il se passe quoi?
OK, puis ta personne à retraite, elle revient, mais elle revient pas 20 ans, là?
Non, c'est ça. Oui,
puis moi,
ma mère là, elle a passé sa vie dans le réseau, elle est infirmière auxiliaire, OK? Mais je veux dire, je pense pas qu'aujourd'hui elle regarde ça puis elle se dit, c'est qu'elle a travaillé pendant 30 ans, 35 ans, puis elle se dit, mon Dieu, c'est pour 12, 15 ou 18, peu importe les conditions. Je suis pas sûr qu'elle va revenir, ça le voit bien, elle entend, tu sais, ce qui se passe,
ben, c'est
elle
pas entend
l'organisation est faite, mais ben, c'est pas, tu sais, je veux dire, elle va profiter encore de sa retraite, de son travail qu'elle fait pour se changer les idées, pour être en contact avec les gens. Puis je suis pas sûr qu'elle va avoir la passion puis l'appel pour revenir. Fait que c'est une pensée magique de dire on va aller chercher des retraités puis ils vont revenir facilement dans le réseau. Là.
Mais surtout qu'ils ont un fonds de pension avantageux. Elle s'est revenue. Ce qui m'a interpellée pendant ce point de presse-là, c'est quand on demandait d'être concilié en attendant qu'on mette tout ça en place. Bon, la fameuse passerelle, ça je peux le comprendre, mais en attendant, on va faire quoi? Pour vrai, là.
Ben c'est ça, parce que là, il y a la date fatidique du 15 octobre aussi, où là, il y a une partie de... Il y a quelques infirmières qui vont quitter le réseau parce qu'elles ne sont pas vaccinées. Donc, l'annonce, c'est sûr qu'elle arrive à point, donc juste un peu avant. Peut-être que, tu sais, un 15 000 $ c'est quand même pas rien là comme bonus, là, tu sais, il faut quand même le dire. 18 000 $ aussi dans les régions éloignées.
Oui, OK, mais fiscalement parlant, Elsie, là, si tu sautes ton palier, là, tu es plus imposé, puis tu perds des prestations. Tu sais, c'est un calcul. Les gens vont faire des petits calculs, là. Ça sera peut-être pas nécessairement si payant que ça que accepter cette offre-là?
Ben effectivement. Mais en même temps, tu sais, celles qui sont là présentement, je pense que c'est une bonne tape dans le dos, mais on est conscient, puis je pense que le gouvernement est conscient aussi que, tu sais, c'est plus profond que ça, là. Donc, toute cette réorganisation-là, il mise beaucoup sur le respect des ententes qui ont été signées, les collectives, et de faire redescendre ça le plus rapidement possible sur le plancher pour que les résultats concrets se voient. L'autre chose, c'est aussi l'ajout de personnel de soutien, tu sais, donc du personnel administratif pour soulager les tâches des infirmières. Monsieur Legault répondait à la période de questions encore en disant, ben là, si elles prennent le 20, 30, 40 de leur temps à faire ça, puis on met des soutiens administratifs, ben ça va aider. Mais tu sais, ça encore, tu sais, comment c'est vrai qu'on n'a pas fait ça avant? Ben oui, c'est ça, tu sais, ces gens-là vont rentrer en poste d'ici deux semaines, tu sais, donc... C'est ça. Il y a un peu de pensée magique, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Je sais pas. Puis ils misent aussi sur ceux là, tu sais, comme qui sont venus aider là pour la vaccination, qui se sont sentis un devoir civique d'aider la patrie. Donc ils espèrent qu'il y a des gens comme ça qui vont se manifester. On le souhaite tous à suivre, tu sais, à suivre vraiment.
Ce qu'il faut espérer, comme tu dis, Elsie, c'est que la petite tape dans le dos pour, mettons, les infirmières ou le personnel qui est là présentement, que ça va les aider là à faire la passerelle vers l'arrivée des conventions collectives, là, pour vraiment arrêter l'hémorragie. Je pense que ça, c'est l'objectif principal, puis c'est peut-être ça qui va marcher le mieux, peut-être. C'est une petite tape dans le dos à ceux qui sont là. Merci de tout ce que vous avez fait dans les derniers mois. Puis en attendant qu'on arrive aux conventions. Mais entre-temps aussi, il faut que ces gens-là sentent que la réorganisation se fait, qu'on parle des heures supplémentaires. Tu sais, M. Legault parlait de concilier la vie professionnelle, personnelle. Et c'est là que je suis pas certain que c'est assez pour se rendre, justement.
Ben, là, c'est ça. Tu viens mettre le doigt sur quelque chose de tellement important, Marc-André. L'ambiance de travail, là, on nous a parlé tout le temps. Tu sais, je parlais avec la présidente de la FIC hier, Nancy Bédard, qui me disait, tu sais, on parlait de l'ambiance toxique et tout ça. Là, est-ce que j'ai rêvé ou j'ai vu passer quelque chose qui s'appelle l'indice bonheur? Là, on va mesurer l'indice bonheur des gens en santé.
Oui, M. Dubé a fait référence à ça, là, qu'il allait avoir des espèces de sondages qui se faisaient déjà là, dans le réseau pour voir si les gens sont satisfaits puis comment ils se sentent. Là. Je veux dire, c'est pas une mauvaise idée. Là. Je pense qu'on
Mais la culture toxique, là, ça va prendre pas mal plus qu'une mesure d'indice bonheur pour y mettre fin.
Tu sais, tantôt, quand j'entendais M. Legault débuter, puis il disait ça va être une petite révolution, là, tu sais, moi, je sens donner des bonnies, c'est une bonne idée, puis une tape dans le dos, puis d'encourager les gens, puis il faut qu'ils restent, puis quand on est à la guerre, que les soldats restent sur le sentier de la guerre, mais Est-ce que c'est une révolution? Ben, il faut pouvoir aller plus loin que ça, je pense, voir vraiment comment les conventions collectives vont changer le réseau. Mais t'as raison, Geneviève, on sent que c'est toxique. Les gens sont démotivés. Quand on demande des temps supplémentaires, ça a un impact sur la famille. Les petits sont au CPE, sont à la garderie, sont à l'école. Puis qu'est-ce qu'on fait? Puis on appelle maman, on appelle papa, tu peux te chercher les enfants, finalement, pour que je reste. T'sais, le réseau a créé plusieurs catégories, des temps pleins, des temps supplémentaires occasionnels, des TPC, des TPSA, fait qu'on crée maintenant une espèce de réseau où là, à l'époque, là, moi je me rappelle quand ma mère a commencé, il refusait de donner des temps pleins. Puis aujourd'hui, ben là, on dit il n'y a pas assez de gens à temps plein. Ouais, mais c'est ça. T'sais, ton réseau, là, tu l'as magané à force de pas donner des conditions à ton monde, mais là, tu dirais que tout le monde travaille, puis là, le monde sont un peu découragé, puis ils disent ben, c'est trop d'or.
Mais... Oui, vas-y. Et d'ailleurs, quand j'entends, j'entends le premier ministre et le ministre de la Santé dire, ben, là, c'est le personnel du réseau qui devrait avoir accès aux meilleurs horaires et donc eux choisir en premier avant les filles d'accès. Mais tu sais, je me dis, mais comment ça que c'est pas déjà ça? Tu sais, ouais, comment serait-il qu'on n'a pas privilégié celles qui sont dans le réseau? Et une bonne nouvelle, en tout cas, moi, j'aime vraiment l'approche parce que des fois, là, le danger, c'est de dire, on a tellement besoin de personnes qu'on va donner des bonus à celles qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est vraiment bien. Mais là, d'avoir pris le soin de dire, on va remercier en premier et donc valoriser en premier celles qui sont déjà là au front depuis le début, qui n'ont pas lâché. Donc ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Puis tu sais, le 15 000 $ si tu travailles en agence, peut-être que de t'en venir à temps plein dans le réseau, ça peut te donner la poussée. Donc, j'ai vraiment hâte de voir là, tu sais, si ça va se concrétiser.
Oui. Puis il y a le
à court terme.
Il y a le point de vue idéologique aussi, là. Moi, pour avoir discuté avec quelques infirmières en dehors du micro, bien entendu, là, qui travaillent au privé, qui me disaient, nous, c'est pas de gaieté de cœur qu'on est parti au privé, là. Il y a des infirmières, des infirmiers qui croient au système de santé publique, mais justement, quand t'es en train d'avoir à faire un choix déchirant entre ta santé mentale, ta vie familiale, puis ton travail, bien, je pense que toi, moi, Marc-André, on aurait tous fait le même choix, là. C'est-à-dire, on se serait choisi pour pas utiliser une formule ultra galvaudée. Fait qu'il y a peut-être des infirmières qui avaient de la misère à vivre avec cette affaire-là, qui vont être contentes d'y retourner, mais pour le recrutement à l'extérieur du Québec, là, accélération de la formation des infirmières auxiliaires. Qu'est-ce qu'on sait, Elsie?
Ben ça, c'est un point important. Donc, il nous a dit que Jean Boulet là, travaillait là-dessus. Bon, l'équivalence de diplôme. Il y a, exactement, ministre du Travail. Puis, il y a les infirmières aussi qui sont parties en Ontario, donc qui essaient de les rapatrier. Mais ça va prendre plus de temps. Là. On n'aura pas d'effet immédiat de ces mesures-là. Mais bon, c'est intéressant de le voir dans le carnet de travail. Là, mais tu sais, concrètement, je pense que la mesure la plus efficace à court terme, c'est vraiment le boni. Mais le boni, c'est qu'une fois que tu l'as donné, le 15 000 $ là, l'année prochaine, les gens ils vont vouloir revoir leur 15 000 $ Puis ça, c'est un autre débat, mais est-ce que le salaire des infirmières est suffisant ou non? Puis tu sais, l'enjeu plus global, là, c'est que le système a été fracturé avec le privé à côté. Donc, tant aussi longtemps là, qu'on va pas légiférer de manière plus importante sur le recours à ces agences privées-là, ben il y en aura pas de solution parce que les conditions vont toujours être meilleures dans le privé parce que c'est toi qui vas choisir si tu travailles 5, 10, 15, 20, 50, 60 heures. T'sais. Donc, le nœud est là. Est-ce que les nouvelles conventions collectives additionnées à ça vont régler le problème? J'espère à moyen terme, mais c'est pas facile.
Marc-André.
Moi aussi, une réponse qu'on n'a pas eue sur un dossier qui rejoint tout ça, là, la main-d'œuvre, c'est le 15 octobre, la date limite pour la double vaccination du personnel de la santé, ça en vient. Là. Et là, M. Dubé nous disait que c'était 7500 personnes qui seraient encore pas vaccinées, personnes soignantes, personnel soignant. Ça aussi, qu'est-ce qu'on fait là? Et je sais, pour avoir parlé des gens dans le réseau, que le tour là, de faire le tour des gens pour demander qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, c'est pas encore complété. Là. Fait qu'on n'a pas encore là, le big picture en bon québécois. Fait que ça aussi, ça va être important.
Mais il reste du temps quand même.
C'est la prochaine question. Là. Qu'est-ce qu'on fait le 16 au matin? Ces gens-là, on les fait pas rentrer. En plus, qu'il en manquait déjà. Les annonces aujourd'hui, il faut que ça fonctionne dans le
On dirait, Marc-André, que cet argument-là, je trouve que c'est un peu un épouvantail à moineau. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent en santé qui peuvent se passer du luxe d'avoir un salaire. T'sais, souvent, ces gens-là ont des familles.
T'as raison, Geneviève. Ouais. Moi aussi, je pensais ça.
Okay.
À Robert Val, on en a parlé. Okay. Il y a entre 7 et 10 infirmières qui ont quitté, là. Pas à cause de la vaccination. Puis, ils se sont retrouvés des emplois à Robert Val. Il y a une pénurie de main-d'œuvre comme partout. Puis dans des emplois avec des conditions qui sont sans doute égales ou peut-être même inférieures.
Ouais, mais
je me demande aussi, je me posais la même question que toi, mais je me dis si ces infirmières-là sont partis pour des emplois qui peut-être sont moins rémunérés, qui n'ont pas les mêmes les mêmes avantages sociaux, ben ils l'ont fait pareil, tu sais.
T'as raison.
Que ça va avoir, t'sais.
Puis en même temps, là, tu parles de Robert Val, là, ça va très très mal à l'hôpital là-bas. On va parler un peu plus tard dans l'émission une maman là qui a attendu 11 heures à l'urgence à Ville-de-la-Baie. La situation en région a été abordée aussi aujourd'hui. Là, je pense que c'est important qu'on l'oublie pas. On a tendance à focusser sur Montréal, les grands centres, là, mais le délestage, puis les bris de service, puis les urgences qui sont ouvertes à heure aléatoire, là, ça se passe un peu partout. Puis il y aura quand même plus d'argent à la clé là pour ces régions-là, Elsie.
Oui, 18 000 $, c'est pas rien. Là. C'est presque 20 000 $ là, que du jour au lendemain, les infirmières vont recevoir. C'est quand même non négligeable. Puis moi, je pense que ça peut en retenir dans le réseau. Ça peut inciter certaines qui étaient pas vaccinées à dire, OK, bon, je pense que j'allais me faire vacciner pour pouvoir avoir ma prime. Parce que si t'es dans le réseau depuis toutes ces années-là puis t'es pas parti, ben, tu sais, pourquoi pas faire une année de plus pour avoir cette prime-là? Donc, en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir les résultats. Puis aussi, il faudrait avoir, tu sais, Marc-André disait qu'on n'a pas complété là, tu sais, le portrait complet, total. Mais ça, c'est intéressant. T'sais. Donc, il y a combien de préposés aux bénéficiaires versus infirmières, versus en CHSLD, versus à l'hôpital. Donc, il y a combien d'infirmières par ailleurs? Parce que là, on a commencé à parler d'infirmières de première ligne qui vont peut-être être amenées à aller travailler dans les hôpitaux pour éviter les bris de service. Donc là, est-ce que c'est la première ligne? Donc, tu sais, les traitements là, qu'on soit au SLSC, tu sais, comme qui sont déjà, c'est vrai, tellement difficile à obtenir. Donc, est-ce que c'est ça aussi qui va ralentir pour être capable de pouvoir poursuivre les opérations puis les chirurgies tout ça en hôpital? C'est pas fini. Puis, je pense que le gouvernement va devoir rendre des comptes puis donner des chiffres beaucoup plus précis.
Parfait.
Puis, même chose en éducation d'ailleurs. Là, ça, c'est l'autre point. Là.
Oui, bon, effectivement. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler. Elsie Marc-André, merci beaucoup. On se retrouve
merci.
Demain.
À demain. Bye-bye.
À demain.
À demain. Juste avant qu'on rejoigne Marie Montpetit, qui est porte-parole libérale en matière de santé, j'ai hâte de savoir ce qu'ont à dire les libéraux sur ce qui vient d'être annoncé. Je veux qu'on revienne sur l'histoire de Gabi Petitot. On en a parlé beaucoup cette semaine. Ça retient l'attention un peu partout sur la planète. Là, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai envie de dire, est-ce que vous vivez sous une roche? Non, je vous taquine. Gabi Petitot, c'est cette jeune femme de 22 ans qui était partie en van pour vivre la van life avec son chum qui est revenu sans elle. Donc, à un moment donné, sa famille s'est inquiétée. Elle a été retrouvée malheureusement morte dans un parc américain. Histoire très, très mystérieuse. Là. Le petit gars, finalement, c'est pas un petit gars, là, il est en vingtaine, mais disparu lui aussi, voulait pas répondre aux questions des policiers, était considéré évidemment comme une personne d'intérêt, surtout qu'il y avait une vidéo qui avait circulé sur les médias sociaux à l'effet que Gabi Petitot et Brian Landry auraient eu des altercations là, pendant leur voyage. La police s'en est mêlée. On pouvait la voir là, dans cette vidéo-là, Gabi Petitot, les larmes aux yeux, puis là, on avait l'homme qui expliquait, ben non, c'est chicané, on avait juste besoin d'attendre. Donc, on en a parlé avec Vincent Dessoureau, on suivait cette histoire-là qui a captivé, puis qui continue de captiver. Puis, il y a un article que je trouve très intéressant qui a été publié, c'est Léa Doplé avec l'AFP sur le site Journal de Montréal. Pourquoi un tel écho à la disparition de la jeune Américaine Gabi Petitot? Puis, je pense que tout le monde, en ce moment, est en train d'avoir la réalisation suivante, là, c'est-à-dire que si elle n'était pas une jeune Américaine blonde, on se serait peut-être pas autant intéressé à son destin tragique. T'sais, on se serait pas posé la question, mais où est-ce qu'elle est rendue? T'sais, à un moment donné, il y avait même un hashtag, le Find Gabi Petitot, qui circulait. Il y avait, c'était trending sur tous les médias sociaux. Là, vous savez, ces mots-clics là, qu'on peut voir à droite de l'écran, ce sont les sujets du jour. Là. Bon, ben, pendant des jours et des jours et des jours, c'était Gabi Petitot. Puis dans cet article-là dont je vous parle, il y a un témoignage. Paris Campbell, 28 ans, c'est une personne qui est très, très populaire sur TikTok. Elle fait des vidéos et elle a publié une trentaine de vidéos sur le sujet, tu sais, où elle y allait de ses interprétations de qu'est-ce qui était en train de se passer. Et juste à cause qu'elle a fait ça, elle a eu une explosion de ses abonnés. Elle dit avoir gagné plus de 100 000 abonnés depuis qu'elle a commencé à évoquer l'affaire de Gabi Petitot la semaine dernière en utilisant le hashtag Gabi Petitot. Ses vidéos ont eu 890 millions de vues. OK? Ça, c'est en date d'aujourd'hui. Là. 890 millions de vues. Puis là, je vais mettre 8 paires de gants blancs, là, mais c'est dire, et cette fille-là se scandalise là, que ça soit ça. Elle se pose des questions, elle dit, c'est un peu malsain. Mais ce sont des gens qui sont en train de monétiser une disparition. Tu sais, ce sont des gens qui sont en train de se dire, ben parce que je parle de Gabi Petitot, puis si j'en parle plus, puis je dis pas que c'est ça qu'a fait là, la Paris en question, là, je le redis, elle est en train d'émettre des bémols sur sa démarche. Mais il y a des gens qui sont littéralement en train de faire de l'argent sur une tragédie, sur un possible féminicide. Puis je vous recommande vraiment d'aller voir et d'aller lire, et j'espère qu'il est encore disponible, un article de Vanessa Destiné qui avait écrit à l'époque sur la disparition de ce jeune homme, un petit garçon racisé dans le nord de Montréal. On en avait parlé quelques jours, mais pas que. Tu sais, on s'était pas énervé comme si c'était un jeune enfant blanc auquel on pouvait s'identifier. Elle avait vraiment fait un article pertinent sur le fait qu'il y avait des études qui démontraient qu'on avait l'empathie à géométrie variable. Tu sais, c'est-à-dire que plus la personne est belle, plus on peut s'identifier à elle, plus on trouve que l'enfant est mignon, plus il nous ressemble, plus il fait partie de notre communauté, ben plus ça enflamme la planète, plus on a le goût de le chercher, plus ça nous choque finalement. Et c'est vraiment ça le phénomène auquel on est en train d'assister avec Gabi Petitot. Puis j'ai envie de dire, tu sais, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'on questionne ça, puis notre appétit aussi pour les questions de true crime, là, parce qu'on disait à la blague avec Vincent Dessureau, ben c'est clair que Netflix est déjà en train de penser à comment acheter les droits de cette affaire-là, là, de se dire on va faire une série documentaire et tout ça. Puis quand tu regardes ce qui est le plus populaire sur ces plateformes-là, les séries de true crime, les faits vécus, on raconte des histoires de tueurs en série, ça pogne. T'sais. Puis moi, j'essaie toujours de penser, puis t'sais, plus près de chez nous, je sais pas si vous vous souvenez, on avait un tueur si proche, là, ça passait à Canal D. T'sais, sauriez-vous le voir venir, là? Moi, j'écoutais ça, là. Puis j'aimais ça, là. Je regardais ça, là, puis je me disais, oh mon Dieu, je voulais savoir ce qui s'était passé. Puis je voulais comme résoudre l'enquête avant tout le monde, là, pendant qu'on s'est fait comme ça, là. Ça s'est construit de façon à ce que le téléspectateur soit impliqué. Puis à un moment donné, je me suis mis à avoir un malaise. Je me suis dit, mais coudonc, tu sais, on est en train de parler des histoires, puis dans le cas de Gabi Petitot, là, ça se passe en ce moment, là. Imaginez-vous sa famille, imaginez-vous ses amis, imaginez les gens qui l'ont connue, qui sont en train de voir que cette femme-là, là, ben, est en train de devenir un sujet TikTok, qu'il y a des gens qui font de l'argent, qu'il y a des compagnies qui monétisent sa disparition, son meurtre, parce que c'est possiblement un féminicide en passant, là, je l'ai dit, dans un contexte de violence conjugale. Mais on a ça, tu sais, c'est le syndrome de la femme blanche disparue. C'est comme ça qu'on décrit ce phénomène-là. Et ce syndrome-là disparaît, et c'est ce qui est souligné là, dans l'article dont je vous parle, l'article d'AFP sur le site Journal de Montréal, Léa Dauple, qui dit, ben, quand c'est une personne noire qui disparaît, une personne racisée, tout à coup, ben, on est moins intéressé. Puis on pourrait aussi parler des femmes autochtones disparues, hein? C'est un peu le même phénomène. Donc, pour qu'on s'y intéresse, il faut que les personnes qui disparaissent, ce soit de jeunes femmes blanches, des femmes belles, des femmes aisées, des femmes qui sont photogéniques. Rappelez-vous là, combien de photos on partage de Gabi Petitot. On fait de l'argent là-dessus. Pensez à sa famille. Puis quand vous regardez des émissions de True Crime, là, pensez pourquoi vous le faites. Moi, je n'ai pas la réponse. Ça me fascine, je veux les écouter, mais en même temps, j'ai de moins en moins à l'aise avec mon malaise. On s'en va pas en pause. Je pensais qu'on s'en allait en pause. On s'en va en pause.